Chapitre 14. Il retourna plusieurs fois au glaïeul. Ce furent des entrevues bizarres et fascinantes. Tous deux en partie revivaient et en partie refaisaient le passé. Philippe reconnaissait chacune des coquetteries, des réticences, des ambiguïtés de Thérèse. Ce n'était pas un simple retour des choses, c'était une idylle inédite. Tout être change, mais ce changement n'est un renouveau que chez ceux avec qui nous commençons la vie. En somme, Thérèse avait un charme que jamais plus elle n'aurait pu avoir pour la givreuse d'antan. Elle semblait rajeunie. Il y avait moins de cruauté instinctive en elle, une plus vive fraîcheur de sentiments. Pour Thérèse, le renouvellement était d'autre nature. Elle aussi voyait fantasmagoriquement rajeunir le passé, mais avec la certitude que Philippe était un autre être que Pierre. Ce qu'elle retrouvait des gestes, de la voix, de la pensée de givreuse, n'était une répétition qu'à la manière dont une floraison est la répétition d'une floraison antérieure. Elle reconnaissait dans un homme ce qu'il avait séduit dans un autre, et comme elle avait gardé la nostalgie de givreuse, qui avait été son grand amour. Elle connaissait d'une renaissance enivrante de son destin. Pourtant, elle ne savait aucunement ce qu'elle allait faire. Veuve, elle n'avait succombé qu'une seule fois après une longue résistance. De nature, elle était une régulière. Après sa rupture avec Pierre, elle s'était jurée de ne plus accepter l'amour que dans le mariage. Mais éprouvait-elle de l'amour pour Philippe? Elle n'eût pas su le dire. Elle se laissait aller à l'enchantement de l'heure, à une sorte de miracle psychique qui pouvait n'avoir pas de lendemain. Tout se passait en causeries entrecoupées de silences langoureux pendant lesquels elle songeait à la brièveté de l'existence et à son incertitude amère. Un jour qu'il s'était attardé plus que de coutume, elle lui dit « Il est bien tard pour retourner à Carole. Savez-vous quoi? Ben nous dînons ensemble. » Elle regretta tout de suite son invitation, puis, songeant qu'avant 3 semaines, elle s'irait sur l'océan en plein de pièges, elle haussa les épaules. Ils dînèrent sur la terrasse lumineuse, devant les grands hêtres rouges et les tilleuls de Hongrie, séparés par une longue pelouse au fond de laquelle poussaient hasardeusement les fleurs des jardins et les fleurs sauvages. C'était l'époque où les tilleuls commencent à répandre leur couleur odeur féerique. Elle arrivait au gré des souffles. Elle exprimait l'obscur désir de ce qui veut croître et multiplier. Le soir venait avec une lenteur extraordinaire. Des chauves-souris mélancoliques, danseuses du crépuscule, tourbillonnaient sur les cimes et le long des murailles. J'ai longtemps détesté le crépuscule, disait Thérèse en grignotant ses petites fraises longues, qui ne sont pas tout à fait des fraises de jardin et ne sont plus des fraises de bois. Il m'apparaissait comme l'heure de l'angoisse, de la mauvaise attente. J'imaginais que ces grands feux qui allumaient les nuages allaient incendier le ciel et la terre. « Bon, j'ai toujours aimé le crépuscule, » répliqua Philippe. « En êtes-vous sûr? Les enfants ne l'aiment point, et la plupart des animaux. C'est tout naturel. Il annonce le grand deuil de la nature, la nuit. » Il contemplait la silhouette enchantée sur qui l'Occident répandait une lueur versicolore. Quelques grosses étoiles commençaient à paraître. Un griot grinça dans l'herbe. Bientôt un autre lui répondit à l'extrémité de la pelouse. Des vers luisants allumèrent leur petite lanterne verte. Est-il possible que nous ayons la guerre? Fit-elle, le visage soudain assombri, et que tant des nôtres. Elle n'acheva pas, elle baissa la tête. Tous deux communièrent dans l'immense douleur répandue. Le café répandit son arôme qui promet et qui console. La nuit était venue. Des insectes bondirent sur la flamme des bougies. À chaque instant, un petit corps rôti tombait sur la nappe. Il jetait un instant ses membres minuscules et s'endormait pour l'éternité. Que c'est étrange, dit-elle. Mais pourquoi ces bestioles viennent-elles mourir ainsi? Oh, la vie est pleine de stupidité impénétrable. Encore les insectes nous apparaissent-ils comme des espérances d'automates, mais ces milliers d'oiseaux qui se précipitent sur les phares et s'y fracassent. Oui, une stupide invraisemblance se mêle à l'ingéniosité des créatures. Et nous sommes bien aussi bêtes que ces insectes. Ou plus peut-être, car nous savons prévoir, et voyez à quoi sert notre prévoyance. Je suppose que vous fumez. Pas beaucoup, non, seulement dans les moments où la tristesse est trop grande. Le mirage? Non, le tabac ne me donne aucun mirage. Il dissout, il disperse mes idées. Non, ce soir, je préfère l'odeur des tilleuls. Il contemplait, dans la lumière dansante et indéterminée, cette compagne qui semblait jaillir d'une terre de fées. Comme c'est doux de vous regarder, murmura-t-il d'un ton qu'elle reconnaissait. Elle eut un léger sursaut, elle plongea au fond du rêve. « Vraiment ? » fit-elle avec une pointe de moquerie. « Êtes-vous seulement véridique ? Est-il possible que je ne le sois pas ? Existe-t-il beaucoup de Français pour qui vous ne seriez pas un merveilleux spectacle ?»« Merveilleux, c'est un bien gros mot. » « Et depuis que les dieux sont morts, que reste-t-il de merveilleux pour les hommes, sinon la femme ? Bon, si vous parlez pour toutes les femmes. Mais je parle pour celles dont le vieux Priam disait « Il est juste que l'on meure pour elles. » Ce Priam était un vieux fou. Elle secoua la tête. « Allons au-devant de la lune. Elle va monter derrière les lettres rouges. » Elle s'était levée et, tête nue, elle descendit vers les pelouses. Il la suivit tout tremblant. Des lueurs confuses les guidaient. Il la connaissait trop pour ne pas savoir que c'était une provocation, mais il savait aussi qu'elle provoquait par caprice, par curiosité et par esprit de bravade. « Au fond, je suis une campagnarde, » dit-elle avec un petit mélange de sauvagesse. « Oh, ce n'est pas parce qu'elle est belle que j'aime la nature, c'est parce qu'elle est redoutable. » Ils marchèrent d'abord sur la pelouse, puis Thérèse obliqua, alors vers une sente qui passait sous les hêtres. L'odeur fine de la jeune femme dominait l'odeur des végétaux. Il écoutait le frisson de la jupe. Quand il se tournait, il apercevait la blancheur du visage dont la forme s'évaporait et une masse sombre qui était la chevelure. « Le sang monta à la tête de Philippe, il saisit la petite main et l'étreignit. « Oh !» fit-elle d'un ton de reproche. Elle dégagea vivement sa main et son rire fusa, un rire argenté, un peu rauque. « Vous ne m'attraperez pas !» Elle avait disparu. Il entendait le pas léger dans les pénombres. Un moment, une sorte de lueur brilla dans la futaie. Puis tout se perdit dans la nuit. Il palpitait. Tous les rêves antiques, toutes les fables amoureuses où se mêlent les forêts, les nymphes, les elfes, grisaient Philippe. Il courait au hasard, la tête perdue, et soudain le rire éclata derrière lui, et se tournant, il vit la silhouette pâle à trois pas. « Vous voyez, dit-elle, je suis insaisissable, et voici celle que nous cherchions. » Une phosphorescence s'insinuait parmi les arbres, puis une lueur de veilleuse. On eut le sentiment d'un immense et d'une immense présence. Enfin, l'astre rouge et froid se dressa parmi les colonnades. « Voici cette main que vous vouliez prendre, dit-elle avec une douceur équivoque. C'est une main amie. » Il prit la petite main avec crainte. Il s'agenouilla pour y mettre un baiser. « Et vraiment, vous me faites la cour, mais prenez garde. »« Mais qu'y faire si je vous aime ? M'aimer, croyez-vous ?» Elle lui prit le bras, elle le ramena sur la pelouse, pareil à un grand étang verdâtre. Des noctuelles voletaient éperdument. Un crapaud chantait ses amours obscurs. « Mais c'est effrayant, ce que vous venez de me dire, » murmura-t-elle. « Mais ce n'est pas vrai. »« Pas vrai, » gémit-il, « mais aussi vrai que ma vie même. » « Mais ce serait plus effrayant encore. Il n'est pas permis d'aimer si vite. Et si vous m'aimez vraiment, malheureux garçon, songez que bientôt je serai parti, que vous ne me reverrez pas, si vous vous réveillez, avant longtemps. On ne gaspille pas ainsi son amour. » « Mais s'enquiert-il de votre volonté ? D'ailleurs, souffrir par vous, c'est encore une douceur, madame. » Elle tourna vers lui un visage ami, mais elle ne répondit point. Pendant une semaine, leurs rencontres furent brèves. Elle se montra d'humeur inégale. Il y avait des moments où elle le traitait en étranger, d'autres où elle était presque câline. Ni l'un ni l'autre ne savait comment cela finirait. Thérèse avait les raisons innombrables qu'ont les femmes pour ne pas vouloir. Peut-être même avec Pierre s'en serait-elle tenue à un platonique rappel des souvenirs, mais elle l'ignorait. Avec Philippe, l'aventure se révélait d'autant plus équivoque que c'était ensemble l'amour d'hier et l'amour d'aujourd'hui. Cependant, l'inclination qu'elle éprouvait pour le fantastique sosie de Givreuse croissait avec une rapidité imprévue. Née de la ressemblance des deux hommes, elle était très différente. Le nouvel amour avait, selon Thérèse, quelque chose de plus intime que l'autre. Un jour qu'elle écoutait Philippe, il lui vint un soupçon aigu. À plusieurs reprises déjà, le même soupçon l'avait effleuré. Il avait paru si absurde que ne s'y était point arrêté. Oh, cette fois, il fut irrésistible. Elle épia Philippe avec sournoiserie. Elle lui posa des questions insidieuses. Il était sur ses gardes. La crise de Mademoiselle de Marsène lui avait appris à se méfier de ses souvenirs. Il ne parlait du passé qu'avec une extrême prudence. Thérèse ne le trouva pas en défaut, et cependant, le soupçon demeurait. Il y eut même un instant où elle crut vraiment que Pierre de Givreuse était auprès d'elle et jouait le rôle de Philippe. « C'est idiot, pensait-elle, pourquoi ferait-il cela ?» Le soupçon persistait, équivoque et multiple. « Et quand ce serait Pierre ?» Oh, elle n'était pas femme à vivre dans le doute. Elle fit surveiller les deux hommes. Elle connut en gros leurs travaux et leurs démarches, et elle eut sur Mademoiselle de Varennes des renseignements fragmentaires, mais décisifs pour un esprit comme le sien. Voilà pourquoi Pierre n'est pas venu, se demanda-t-elle. Mais si mes soupçons sont justes, cela expliquerait pourquoi il joue auprès de moi le rôle de Philippe. Oh, ce serait abominable et habile. Il aurait sans risque l'ancien et le nouvel amour. L'imagination de la femme se joue dans l'impossible, surtout quand l'impossible se mêle à l'antique duel des sexes. Elle riait d'elle-même. Pourtant, elle alla épier le château de Givreuse et surprit maintes démarches de Pierre. Un jour, surexcitée, elle l'attendit. Il la vit brusquement devant lui sur la route. Hypnotisé, son regard se fixait sur elle avec une stupéfaction naïve qui ne pouvait être feinte. « Thérèse ? » balbutia-t-il. Elle l'examinait avec une curiosité dévorante. Très vite, il vit qu'elle avait les joues plus maigres que Philippe, le teint plus pâle et, dans toute son allure, quelque chose de plus rêveur, de plus indécis. « C'est lui, Pierre !» se dit-elle. « C'est lui que j'ai aimé !» Elle sentit avec une joie sourde que cet amour si profond et si terrible la laissait presque indifférente. Il avait définitivement disparu dans le gouffre des choses mortes. Philippe seul l'émouvait. Elle devina une indifférence pareille chez le jeune homme, et de cela seulement elle ressentit un léger dépit. « Vous savez que j'ai vu votre sosie ?» fit-elle avec un peu de sarcasme. « Sans doute la ressemblance est prodigieuse, pourtant je ne m'y tromperai point. » Un instant, ils demeurèrent là, échangeant des paroles qui ne les intéressaient guère, puis elle lui tendit la main sans rancune. Il crut devoir télégraphier à Philippe, qui arriva au château vers le soir. « J'ai rencontré Thérèse, » dit-il dès qu'ils furent seuls. Philippe devint pâle, la jalousie passa en rafale. « Où ? » demanda-t-il d'une voix rauque. « Oh, sur la route d'Avranches. » Oh, elle doit l'avoir voulu. Non, je ne crois pas. L'entrevue a été courte et si insignifiante. Philippe marcha quelque temps le front bas. Une ride profonde rapprochait ses sourcils. Une sévérité chagrine contractait ses lèvres. Ben, il ne faudrait pas que mes épreuves s'aggravent, dit-il enfin. Je me suis violemment conformé au sort. J'ai voulu qu'il n'y ait eu aucune rivalité de fait entre nous. Thérèse, t'es-elle complètement indifférente? Oh, complètement. Eh bien, moi, je l'aime. Tu l'aimes? S'exclama Pierre. L'évolution de sa vie ressemblait si peu à celle de Philippe qu'il en demeura abasourdi. Il ne concevait pas que, ayant aimé Valentine, on pût se remettre à aimer Madame de Luysange. Oui, reprit Philippe, et remarque que je ne l'aime pas par un retour du passé. Le passé serait presque un obstacle. Je l'aime, je sais pas moi, pour un renouvellement de ma personne et de la sienne, qui est aussi inexplicable que notre unité. Sans doute, je n'ai pas entièrement cessé d'aimer Valentine, mais désormais, l'abandon de cet amour n'est plus tragique. Thérèse, même si elle ne m'aime pas, m'a délivré. Souffrir pour elle, c'est une souffrance normale. Comprends-tu pourquoi il me faut l'entière certitude de ton indifférence? Pierre l'écoutait ébloui. La jeunesse de l'univers rentrait en lui, toutes les grâces éparses que l'espérance rassemble dans le ciel et sur la terre. Il espérait, comme on respire la jeune brise du matin. Est-ce vrai? Bégaya-t-il. Oh, si tu savais comme Thérèse est lointaine, comme elle se perd dans les ténèbres. Eh bien, c'est plus que je n'en demandais. Sois libre. Entre Valentine et toi, il n'y a plus d'obstacle. Ils étaient arrêtés dans un coin tout resplendissant de fleurs. Vagabonde. Ils se regardaient avec cette expression qui dépassait la tendresse, mais ils n'eurent aucun des gestes qui marquent l'amitié des hommes. Chapitre 15. Thérèse jouait une de ces sonates slaves où frémit la même âme révoltée, inassouvie et fraternelle que dans guerre et paix ou crime et châtiment. Les fantômes passaient sur la steppe dans le déferlement des vents du large. Les vagues de mysticisme gonflaient les cœurs. Les hommes pleuraient leur destinée chagrine et leur isolement éternel. Philippe contemplait le corps rythmique et ce cou rond comme le cou de la sulamite, sur lequel retombait une chevelure fabuleuse. Les fées sonores évoquaient son propre destin. Il s'étonnait de ne pas le trouver plus étrange. Aimez-vous cela? Demanda-t-elle. Par instant, c'est trop fluide. Tout m'échappe, puis c'est un enveloppement impérieux, presque morbide, et pourtant très doux. Les yeux changeants de Thérèse palpitaient entre les cils ténébreux. L'amour s'exhalait d'elle comme le parfum des tilleuls. Et Philippe songeait avec ébahissement qu'elle avait été sa maîtresse, qu'elle l'ignorait, et qu'ils étaient en face l'un de l'autre comme des êtres qui s'aiment pour la première fois. Il fallait la conquérir. Elle se tenait là, énigmatique et neuve. Et lui, qui jadis l'avait pressée innombrablement contre son cœur, ne savait pas même s'il obtiendrait un baiser de ses lèvres. M'aimez-vous toujours? Fit-elle avec un mélange de câlinerie et de sarcasme. Vous êtes trop femme pour n'en être pas sûre. Sûre? Ah, le plus décevant des mots. Mais comment des êtres autour de qui tout change et qui changent eux-mêmes pourrait-il être sûr de quelque chose? Et pour si vous le croyez, ce n'est pas faux, mais il est impossible que ce soit déjà vrai. Ou alors c'est un pauvre amour dont il faudrait avoir peur. Mais ne dites pas cela, fit-il d'une voix suppliante. Que savez-vous si un grand amour ne peut pas naître un peu de jour? Oui, soit, disons qu'il n'est pas vérifié. Je suis classique, j'ai le sens du temps, et je ne me fie qu'à ce qu'il y a duré. Il faut d'abord que je sache si l'amour qu'on m'offre sera une grande aventure, sinon à quoi bon? Dans ce monde tragique où nous recevons si peu de bonheur et si peu de beauté, que reste-t-il à la femme si l'amour n'est qu'un caprice? Elle pencha, sa tête étincelante. Vous ne me déplaisez pas, mais comment savoir si je vous aimerai? Combien de fois vous verrai-je encore avant mon départ? Une dizaine de fois peut-être, et combien de fois vous ai-je vu? Nous sommes des étrangers. Est-il possible que nous cessions de l'être dans un si court intervalle? Mais si vous m'aimiez pourtant, eh bien, dit-elle avec son petit rire ambigu, je vous aimerais, et c'est tout. Vous ne croyez pas que je céderais au dernier moment, en coup de foudre? Ce serait le plus sûr moyen d'être oublié. Mais je ne vous oublierai point. Et qu'en savez-vous? Vous n'êtes pas encore à l'âge où l'homme se connaît. Et je ne sais si cet âge arrive pour un sur mille. Ce que je sais, c'est que les perfides moralistes masculins ont menti à travers les siècles en chargeant la femme de cette infidélité qui est l'essence même de l'homme. Elle s'était rapprochée. Elle posa ses petites mains sur les épaules de Philippe et lui dardant son regard dans les prunelles. Mystère, mystère, chuchota-t-elle. Il avait tressailli. D'un geste irrésistible, il s'empara de Thérèse et l'attira contre sa poitrine. Elle résistait à peine. La chevelure était là, si douce et si sauvage. Il y plongea farouchement les lèvres. Et il sentait palpiter le corps délicieux de la jeune femme. Thérèse, balbutia-t-il. D'un mouvement vif, fort et souple, elle se dégagea. Vous n'avez pas le droit de m'appeler ainsi, se récria-t-elle. Un instant, l'émotion demeura sur elle et détendit sa bouche. Ses pupilles s'étaient dilatées au point que l'iris ne formait plus qu'une longue bague brillante. Elle se reprit, le visage devint grave et dur. Me voilà sur mes gardes, oh, ne comptez sur aucune surprise, fit-elle d'un ton de défi. Il la connaissait bien, il savait qu'elle demeurait maîtresse d'elle-même jusqu'à la minute où elle consentirait librement. 6 heures sonnèrent. Elle dit: Ah, je vais recevoir une visiteuse. Vous verra-t-on demain? Oh, je ne sais pas. Nous allons essayer un canot électrique, un grand canot insubmersible, qui pourra peut-être, quand il sera au point, servir contre les sous-marins. Ah, fit-elle intéressée. On prétend qu'il y a des sous-marins près du littoral. Mais comment un canot pourrait-il combattre ces monstres? Oh, le canot est extrêmement rapide, avantage qui s'accroît de sa petitesse. Il peut lancer une torpille légère qu'on croit efficace. L'anxiété se répandit sur le visage de Thérèse. Elle serra nerveusement la main de Philippe. Venez dès que vous serez rentrée, à n'importe quelle heure. L'aube allait venir. On ne sait quel haillon de lumière traînait sur la mer et dans l'immense ténèbre du ciel. Il y avait des ébauches de moires, des miroitements blafards, de vagues et fugitives phosphorescences. Puis on commença de discerner des nuages gris de limaille et des vagues gris de boue. De l'orient blême, la piquette du jour se répandit sur les plaines sauvages de l'océan. Des nuées laineuses bourraient le firmament. Une petite barque venait de surgir des falaises. Elle avait presque la couleur des flots, et les deux hommes qui la montaient semblaient des fragments de la coque dont leurs vêtements avaient la nuance. Une partie seulement de leur buste émergeait de deux concavités creusées dans la superficie de l'embarcation. Ils tournèrent un rocher à double cime, redouté par les navigateurs, et filèrent vers le sud-ouest à toute allure. Cette allure était surprenante pour un si petit bâtiment. Elle devait atteindre près de 30 nœuds. Des deux hommes qui le montaient, l'un était vieux, un collier de barbe rouge et blanche, une face de cuir bistré, deux yeux de marcassite ou de rudes sourcils fauves, des yeux de marin rapides et sûrs. L'autre était Philippe. La mer grondait faiblement. Les vagues étaient longues, point hautes cependant, mais très lentes. « Ça va ferme !» dit le vieux. Philippe inclina la tête. Le vieux homme dirigeait la manœuvre. Devant Philippe, il y avait des manettes et des commutateurs. Il n'existait point d'autre communication entre l'extérieur et l'intérieur de l'esquif. Dessus comme dessous, toute la coque était strictement étanche. La barque se nommait l'insubmersible, et elle l'était. Des yeux de matelot pouvaient discerner très loin quelques navires perdus sur la mer. L'un d'eux était plus visible que les autres et beaucoup plus proche. C'est vers celui-ci que s'orienta la barque. Il filait vers le nord-ouest à toute vitesse. Cette vitesse était fort inférieure à celle de l'insubmersible. Après 10 minutes de course, la distance avait sensiblement décru. Philippe, à travers sa longue-vue, discerna le nom du voyageur, Old Queen Elizabeth. C'était probablement un cargo, un bâtiment déjà ancien, de 1500 à 2000 tonnes, avec deux cheminées. « Attention !» grommela le vieux marin. Son doigt désignait quelque chose à la surface des flots, et que Philippe n'aperçut pas tout de suite. « Un périscope !» précisa l'autre. Philippe le distingua péniblement, minuscule, sur l'immensité. « Oh oui, vous avez raison !»«
Pas d'erreur, monsieur. Le bateau là-bas est signalé.
La sale bête est en chasse. »
« En plongée ? Oh, elle doit avoir ses raisons. On ne me fera pas croire qu'elle n'a pas vu.
Ben, »« Oh, Queen Elizabeth, mon camarade, avec des circuits !»
Le vieux cligna de l'œil en connaisseur. La barque se mit à décrire des zigzags et des paraboles. Là-bas, une sorte de bête apocalyptique émergea.
« Il monte, monsieur,
foi de Pierre Salon, ce sera la chasse !»
« Maintenant, c'est lui qu'il faut suivre. » C'était un sous-marin de grande envergure, un cruiseur puissamment armé et plus véloce que le cargo. Plus de 6 kilomètres séparaient les deux navires. L'insubmersible formait avec eux un triangle presque équilatéral. Il était environ à 5 kilomètres de l'un de l'autre. Pendant quelque temps, les trois embarcations voguèrent en silence. Enfin, on aperçut un jet de fumée, bientôt suivi d'une détonation. L'Old Queen Elizabeth continuait sa route.
« Trop court !» ricana le vieux.
Le sous-marin était à 5 kilomètres du cargo, l'insubmersible à 3 kilomètres du sous-marin, sur lequel il fondait à belle vitesse. Le sous-marin continuait le tir. Graduellement, ses projectiles encadraient le fugitif.
« Oh, touché !»
grommela rageusement Philippe. Il pouvait voir la trouée faite par l'obus.
Mais nous en veulent aussi, monsieur, grogna Pierre Salomon. Jusqu'alors, l'équipage du sous-marin n'avait pas paru s'apercevoir de la présence de l'insubmersible. Le canot n'était qu'un insecte perdu sur la mer. À la longue, en voyant la manœuvre de l'insecte, le capitaine du cruiseur s'étonna. Comme je vous le disais, remarqua Salomon, une bombe venait de s'enfoncer dans les flots à 3 ou 4 encablures, et tout de suite d'autres la suivirent. La vitesse extrême de la submersible, ses embardées et sa petite taille en faisaient un objectif difficile. Pour Lord Queen Elizabeth, l'aventure devenait sinistre. De larges fissures béaient dans sa coque, dont l'une à la ligne de flottaison. L'eau entrait. Le navire commençait à se pencher. L'équipage s'empressait au canot de sauvetage. Un énorme jet de vapeur, une détonation prolongée annoncèrent que la machinerie était atteinte. « Les pauvres !» murmura Salomon en faisant un rapide signe de croix. « Ils sont flambés !» Le canot n'était plus qu'à quelques centaines de mètres du sous-marin. Les projectiles l'enveloppaient furieusement. Mais la petite embarcation, aussi rapide que les goélands et aussi déconcertante que les hirondelles, semblait jouer à cligne-musette avec les obus. « Oh ben !» ronchonna le marin. Un projectile venait de s'enfoncer à moins de 10 toises. « Pas encore de secours !» clama sauvagement Salomon. « Il faut ralentir, puis s'arrêter. Le cap sur eux !» commanda paisiblement Philippe. Le vieux obéit. Là-bas, Lord Queen Elizabeth coulait. Des embarcations chétives fuyaient sur la plaine glauque. Les hommes du sous-marin riaient. « Stop !» dit Philippe, l'œil fixé sur l'ennemi. Il toucha successivement 3 boutons électriques. Une poussée sourde, un sillage, puis une vague au flanc du submersible, une clameur et des imprécations. « Ils en tiennent !» reprit le jeune homme. « Au large !» L'insubmersible s'éloignait à toute vitesse. Le sous-marin semblait indemne, il continuait à bombarder la barque. « Il en tient tout de même, allez !» remarqua le vieux. Un quart d'heure s'écoula. L'insubmersible était hors de portée. Lord Queen Elizabeth avait coulé. Le sous-marin demeurait en surface. « Doucement !» dit Philippe. Il avait repris sa longue vue, il examinait l'ennemi. « Oh, il a certainement quelque chose !»« Et là !» s'exclama Salomon. « Voyez voir là-bas, au fond, monsieur, il y a quelqu'un !» À son tour, Salomon exhibait une lorgnette. « Ma tête, mais c'est un contre-torpilleur !»« Seulement ce port de sous-marin va plonger !» Le contre-torpilleur avançait à grande allure. « Le sous-marin ne plonge pas, » dit Philippe. « Oh, c'est vrai qu'il ne peut pas. Notre dragée lui a détraqué quelque chose. Attention !»« Oh, hurrah !» Un coup de canon lointain venait de retentir. « Oh, trop court !» constata Salomon. La canonnade s'enflait. Le sous-marin était proprement encadré. Il tenta de riposter. Salomon jubilait. « Pas de taille, vieille drogue !»« Sans faute 2 kilomètres, et tu plonges toujours pas, je constate !» Une gerbe de feu et de fumée s'éleva du sous-marin. Un tir impitoyable trouait et faisait sauter la chaudière. Le monstre donna de la bande et commença de s'enfoncer. 2 gros obus l'achevèrent. Il coula dans un maelstrom et bientôt une large nappe huileuse s'étendit sur les flots. « Mais la bête, elle est crevée !» s'exclama Salomon en faisant le signe de la croix. Et vous savez, monsieur Frémeuse, c'est tout de même nous qui avons commencé le boulot. Sans notre petite torpille, le gros frère, il n'aurait pas eu le temps. Le requin serait rentré dans la mer. David a eu Goliath. Une joie étrange, tellement elle était abstraite, emplissait le cœur du jeune homme. Tandis que chez le vieux, c'était une explosion farouche. L'insubmersible se rapprocha de l'endroit où avait disparu le pirate. La nappe grasse et moirée commençait à disparaître. Quelques carcasses flottaient. « Assassins !» hurlait Salaoun. « Dieu sait ce qu'ils ont fait claquer de braves mondes. En voilà un qui remue !» Un homme se débattait faiblement sur l'immensité glauque. Il semblait jeune encore, le visage glabre, les joues minces. « Où qu'on le mettrait ?» demanda le vieux homme. « On verra. » L'homme disparut, mais pour émerger plus loin. Philippe lui jeta une amarre. Le naufragé s'y accrocha. Il murmura quelque chose, puis ses bras s'ouvrirent et sa tête fonça dans les vagues. On ne le revit plus. Des nuages épars en se soudant formèrent une nuée colossale. On discernait encore des fissures bleues. Elles disparurent avec une rapidité fantasmagorique. Un vent sournois tourbillonna, et la nuée devint un nimbus couleur de fumée et d'ardoise, ourlé de lueurs palpitantes. Des vagues courtes, très rudes, faisaient vaciller le canot. « Ça va faire du sale café !» marmonna Salaoun. « Faut rallier la côte à grand air !» La côte était à 8 nœuds, quand la tourmente éclata dans sa force. Le frêle insubmersible vacillait dangereusement. À chaque instant, son hélice fonctionnait à vide. Salaoun, froncé, crispé, attentif et pâle, cherchait à éviter les passes dangereuses. Et subitement, tout s'arrêta. Le moteur ne fonctionnait plus. « On est entre les mains du diable !» fit le marin. « Ça m'aurait été égal encore, mais pas aujourd'hui. Si encore il n'y avait pas ces cochonneries d'écueils !» Pendant près d'une heure, l'embarcation flotta au hasard de la bourrasque. Les deux hommes tâchaient de lutter. Des lueurs livides traînassaient dans l'étendue. Le fond du firmament était si sombre qu'on avait l'impression d'être à la fin d'un crépuscule. Un haut écueil fait de 3 roches s'élevait vers la gauche. La pluie roula par rafales, un voile plombagineux couvrit l'Atlantique, et Salaoun, malgré sa longue expérience, ne reconnaissait plus sa route. Il scrutait l'étendue et la petite embarcation semblait une épave emportée au gré des météores. Soudain, un profil sinistre se profila dans la brume. « L'écueil !» grogna Salaoun. L'insubmersible fit entendre un craquement sourd. Ils étaient dans le roc. Cela formait une sorte de crique étroite, assez longue. Entre 2 blocs, on s'entreapercevait une échancrure. « On peut s'amarrer !» déclara le vieil homme. « Et s'il n'y a pas de trou, on verra moyen de s'en tirer plus tard. » Il réussit effectivement à fixer la barque à une pointe granitique et ils débarquèrent. Une demi-heure s'écoula, l'insubmersible ne coulait pas. De ci de là, un ressac le secouait et déjà la tourmente s'apaisait. Une trouée éblouissante creusait le zénith. « Une chance, monsieur !» remarqua Salaoun. « Le bachot m'a l'air tout d'être très sain. Si on pouvait seulement faire marcher la mécanique !»« Bon, c'est difficile et peut-être impossible. Les qualités propres au canot s'y opposent. Il faudrait un outillage spécial pour entrer là-dedans. » Il s'était réfugié dans les chancrures. Cela formait au centre une espèce de caverne au plafond fendu. Le sol était lisse, poli par les vagues, presque horizontal. À marée haute, il était submergé. On est tranquille pour plusieurs heures, et à la haute marée, on peut grimper. Il y a une façon de niche où on tiendrait deux. Le temps s'apaise. Oh, me faudrait les chances pour accoster là-haut. Bah, on rencontrera du monde avant. L'aventure n'inquiétait plus Philippe. Il était content. L'infime insubmersible venait de rendre un service qui dépassait de loin sa valeur marchande. Toutefois, le hasard avait fait les trois quarts de la besogne. Philippe n'ignorait certes pas qu'un ou plusieurs sous-marins s'étaient montrés en vue des côtes, mais rien ne pouvait le guider, d'autant plus que l'indice d'un jour ne signifiait rien pour le lendemain. Son expérience avait été heureuse. Si le canot n'était pas au point, il avait pourtant montré des qualités positives. Et pendant que Philippe songeait, le beau temps était revenu, avec cette soudaineté qui semble plus fréquente encore sur l'océan que sur la terre. Salaoun s'était retourné vers la barque. Il se livra pendant quelque temps à des manœuvres. Puis sa silhouette trapue se dressa. « Ça va, la mécanique marche, monsieur Philippe !» Il était 10 heures du matin quand Philippe se présenta chez Thérèse. Elle parut dans un grand vêtement de laine, toute moite de bain. Les cheveux de la nuque n'étaient pas secs encore. Elle fixait sur Philippe des yeux ébahis. « Bon, excusez-moi, vous m'avez dit de venir à n'importe quelle heure. »«
Comment, déjà fini ?»«
Oh, nous sommes sortis avant l'aube. Tout est fait depuis longtemps. »
Il avait changé de costume. Rien ne révélait l'expédition qu'il venait d'accomplir.
« Vous avez essayé le canot ?»«
Oui, dans des conditions très favorables. »«
La mer était belle. »«
Oh non, ce n'est pas ce que je veux dire. »
Une voix se vit entendre dans la chambre voisine.
« Madame, madame, vous ne savez pas, on a coulé !»
Thérèse, curieuse, ouvrit vivement la porte.
« On a coulé ? Oui, un sous-marin, madame, en vue de Granville. »
Thérèse se tourna vers Philippe.
« Ah, vous le saviez ?»«
Oui, le sous-marin venait de couler à un vapeur anglais, Lord Queen Elizabeth. Un torpilleur l'a coulé à son tour. »
« Vous l'avez vu ?»«
Ah, comme je vous vois !»«
C'est pendant que vous étiez en mer ?»«
Oui !»«
Oh, dites comment c'est arrivé !»
Elle tournait vers lui un visage où la naïveté de petite fille se mêlait à l'ardeur de la femme. Il raconta ce qui s'était passé. Il le fit sobrement, sans insister sur le rôle de l'insubmersible. Avide, elle multipliait les questions. Elle voulait violemment que le rôle de Philippe eût été décisif. Elle reconstruisait à sa manière l'aventure de la faible barque attaquant le grand pirate.
« Mais c'est vous qui l'avez blessé, affirmait-elle, c'est vous.
On ne le saura jamais.
Mais c'est sûr, pourquoi n'aurait-il pas plongé ?
Une teinte rosée envahissait les joues mates. Philippe vit passer dans les yeux éclatants cette lueur d'incendie qui, jadis, précédait leurs étreintes. Le passé s'incorna dans le présent, et Philippe, perdant la tête, avança les bras pour saisir la jeune femme. Deux petites mains à la fois se joignirent aux siennes et le continrent, tandis qu'une voix volontaire chuchotait.
« Non, vous m'êtes cher, Philippe, mais je ne vous aime pas encore. »